Karine Joriot.
Olaf Scholz appelle au respect des frontières. Il a déclaré aujourd'hui que ce respect vaut pour tous les pays. Le chancelier allemand s'exprimait devant son parti social-démocrate à Berlin quelques jours avant l'investiture de Donald Trump. S'il n'a pas explicitement cité le nom du républicain aujourd'hui, Olaf Scholz l'avait déjà directement mis en garde cette semaine après ses déclarations menaçantes sur le Groenland, Panama ou le Canada. Aux États-Unis, les vents qui attisent les flammes à Los Angeles ont commencé à faiblir hier, mais la polémique monte sur les moyens des secours. Le gouverneur de Californie demande un examen indépendant complet des services de distribution d'eau de la ville, pointant le manque d'approvisionnement en eau et la perte de pression aux bouches d'incendie dans les premiers instants des incendies. Le bilan, lui, se monte pour l'heure à 11 morts. En ski alpin, l'exploit du jour est signé par Mallory Blanc pour son deuxième départ en Coupe du Monde. La Valaisanne de 21 ans a pris la deuxième place de la descente de Sankt Anton en Autriche. Elle termine à 7 centièmes de l'Italienne Federica Brignone. Chez les hommes, c'est le Français Clément Noël qui a remporté le slalom d'Adelboden. Meilleurs Suisses, Tanguy Neff et Marc Rochat ont terminé 8e et 10e. Et au programme demain, un super G pour les femmes et un géant masculin. En snowboard, le slalom géant parallèle Coupe du Monde de Squall a tourné à la déroute pour les Suisses. Aucun de ses représentants n'a passé le cap de quart de finale. Julie Zog a été éliminée en 8e de finale. Ladina Kavieszel et Florina Becci en quart. Gian Casanova et Dario Kavieszel n'ont pour leur part pas passé le cap du premier tour. En Suisse, de plus en plus de cigognes passent l'hiver sur place. Elles sont même près de la moitié à rester durant la saison froide. 1041 oiseaux ont en effet été recensés lors du 9e recensement hivernal début janvier. Malgré les conditions, les cigognes trouvent de la nourriture, ce qui leur évite la migration vers l'Afrique. La population de cigognes en Suisse a fortement augmenté depuis les années 2010, après une quasi-extinction dans les années 50 due à la dégradation de leur habitat. La météo, bel après-midi au programme avec du soleil et quelques bancs de stratus en ajoie. La bise est modérée autour du Léman, comptez maximum 3 degrés en plaine. Demain, temps généralement ensoleillé avec quelques bancs de stratus sur le plateau, le nord du Jura ainsi qu'en Valais. Limite supérieure de la grisaille, elle se situera entre 1200 et 1500 mètres. Côté température, il fera minimum moins 3 degrés en plaine, moins 1 autour du Léman et maximum 2 degrés par endroit. Avec une bise toujours modérée sur le plateau, forte sur l'ouest lémanique. Et puis la semaine prochaine s'annonce plutôt bien ensoleillée avec du stratus toutefois en plaine.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et avec la complicité à la régie de David Golan. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Nous partons pour l'Arménie. Située dans la région du Petit Caucase, cette ancienne république socialiste soviétique est depuis 1991 un État démocratique. Selon les conventions géographiques classiques, l'Arménie se situe en Asie occidentale, mais le pays appartient géographiquement, politiquement et culturellement à l'Europe. Il entretient des liens très forts avec l'Union européenne. Sa devise, une nation, une culture. En effet, sur le plan culturel, l'Arménie peut s'enorgueillir d'avoir une histoire et une culture d'une richesse exceptionnelle. Le plateau arménien est même considéré comme le berceau des civilisations indo-européennes. Sur le plan musical, l'Arménie se distingue également par sa richesse et sa variété. Durant toute son histoire, le pays a tantôt subi des influences, tantôt influencé ses voisins. Rappelons que l'Arménie a des frontières terrestres avec la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord-nord-ouest, l'Azerbaïdjan à l'est et l'Iran au sud-est. Les artistes arméniens ont eu conscience de la valeur de leur patrimoine culturel et musical et ils ont tout fait pour préserver leurs traditions et leurs spécificités culturelles en dépit de leur histoire très mouvementée, ce qui donne à leur musique une couleur unique. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à cet héritage musical en allant à la rencontre des grandes figures de la musique arménienne classique qui ont marqué l'histoire de leur pays. Et le premier nom qui vient à l'esprit quand on parle de musique en Arménie, c'est le compositeur Aram Khatchatourian, dont voici l'œuvre qui a immortalisé le nom, la danse du sabre. La danse du sabre, un extrait du ballet Gayenne d'Aram Khatchatourian. Le compositeur était ici à la tête du Philharmonia Orchestra de Londres. Aram Khatchatourian est sans conteste le compositeur arménien le plus connu en Europe. Il est né en 1903 à Tiflis, en actuelle Géorgie, mais autrefois dans l'Empire russe. Et il est mort en 1978 à Moscou. Il s'est imposé avec Prokofiev et Chostakovitch comme l'un des plus grands compositeurs de la période soviétique. Il faisait d'ailleurs partie des compositeurs officiels du gouvernement. Khatchatourian a grandi en écoutant les airs que sa mère fredonnait et ceux que les musiciens de rue faisaient entendre. Il a étudié à l'Académie russe de musique de Gnessine où il a eu pour professeur Nikolaï Miakovski et Reinhold Glier. La musique de Khatchatourian se nourrit des traditions musicales arméniennes. Elle fait entendre des mélodies régionales et des rythmes de danse locales tout en amorçant une nouvelle voie vers le développement de la musique soviétique arménienne. On reconnaît immédiatement son orchestre luxuriante et sa vitalité dans ses musiques de ballet comme Spartacus, qui raconte les exploits du chef de la révolte des esclaves contre l'Empire romain, et surtout Gayenne, qui raconte l'histoire de cette jeune arménienne, fille du responsable d'un kolkhoz, dont les convictions patriotiques entrent en conflit avec ses sentiments personnels lorsqu'elle découvre la trahison de son mari. L'utilisation des motifs populaires se retrouve aussi dans sa musique de chambre ou dans sa musique orchestrale, notamment dans son concerto pour violon, qui lui a valu une notoriété internationale. En 1948, Khatchatourian a été pointé du doigt pour ses tendances formalistes, au même titre que Chostakovitch, Prokofiev ou Miaskovski. Je propose ici d'écouter le mouvement lent de son concerto pour violon et orchestre.
Thank you.
Andante sostenuto, c'est le mouvement lent du concerto pour violon et orchestre en ré mineur d'Aram Khachaturian. Antje Weithas en était la soliste, accompagnée par la Philharmonie rhénane de Koblenz, direction Daniel Raiskin. S'il est le représentant le plus connu de la musique arménienne en Europe, Aram Khachaturian n'est pas le seul à s'être illustré dans le domaine de la musique classique. Bien avant lui, le prêtre Komitas résume et symbolise toute la culture musicale arménienne de la période qui précède l'ère soviétique. Il est généralement considéré comme la voix de l'Arménie et le fondateur de la musique arménienne classique moderne. Pour Claude Debussy, Komitas était un compositeur de génie qui a passé une partie de sa vie à sillonner les régions montagneuses de son pays pour y collecter les chants populaires qu'il harmonise et transforme en lieds. Grâce à lui, le patrimoine musical arménien a été sauvé de l'oubli. Komitas est ainsi une véritable figure tutélaire de la culture arménienne. Survivant du génocide de 1915, c'est à lui que l'on doit la sauvegarde du patrimoine musical arménien. « Je m'incline devant votre génie », c'est ce que Debussy aurait dit à Komitas lorsqu'il a pu l'entendre en tournée en Europe en 1906. Pourtant, Komitas ne s'est jamais considéré comme un compositeur, mais plutôt comme un collecteur. Pour mémoire, Komitas est né en 1869 dans une région pauvre de l'Empire ottoman. Ses parents sont arméniens, mais ils n'ont pas le droit de parler leur langue maternelle, car en cette époque, on coupait la langue à tous ceux qui parlaient arménien. Le seul endroit où on pouvait parler arménien était l'église par le biais du chant. Orphelin précoce et particulièrement intelligent, Komitas, qui s'appelle alors Soromon Soromonian, se fait remarquer par le prélat de sa paroisse par sa voix magnifique. Ce dernier lui permet d'intégrer le séminaire de Gevorkian, ouvert aux orphelins. Il est admis à l'âge de 11 ans et ne tarde pas à se faire connaître comme la plus belle voix du séminaire. À 16 ans, en découvrant la richesse de la musique traditionnelle arménienne, chant de travail, chant de labour, musique de troubadour, musique liturgique, Komitas a une révélation, il sera prêtre et musicien. Il prend alors le nom d'ordination Komitas, en référence à un compositeur arménien du 7e siècle. Dès 1900, il voyage à travers l'Arménie, il écoute les chants et les danses traditionnelles et les retranscrit, en se cachant parfois pour ne pas dénaturer l'authenticité des chansons. Il utilise la notation arménienne pour sauvegarder ainsi près de 2000 pièces vocales et instrumentales. Il les reprend dans ses compositions, les transforme, les harmonise et en fait des œuvres qui sont ainsi jouées dans les salles les plus prestigieuses d'Europe.
Thank you.
Erhangi, Unabi et Marali, ce sont trois danses arméniennes de Komitas sur le piano de Grigori Sokolov. Komitas, la voix de l'Arménie, comme on le surnomme volontiers. Plus qu'un compositeur, Komitas se considérait plutôt comme un collecteur. Mais l'utilisation qu'il fait de la musique religieuse en l'intégrant à des œuvres profanes est plutôt mal vue par l'Église arménienne. Sans jamais renier sa foi, Komitas prend donc ses distances, à la fois sur le plan intellectuel et physique. Il s'installe près de Constantinople, où vivent quelques 100 000 Arméniens. Faute de fonder un conservatoire, il fonde une chorale populaire qui connaît un grand succès dans l'Empire ottoman. Mais les persécutions de masse des Arméniens gagnent aussi Constantinople. Le 24 avril 1915, Komitas est arrêté et emprisonné avec d'autres artistes et intellectuels. Il chante pour adoucir les peines de ses compatriotes. Il chante aussi comme un acte de résistance face aux gardiens, malgré les sévices. Il est relâché in extremis grâce à un Turc qui apprécie sa musique et se cache dans un hôpital de Constantinople jusqu'à la fin des massacres. Profondément traumatisé par le génocide, Komitas se mure dans le silence. Ses notes et manuscrits sont détruits ou éparpillés. Et après la guerre, il est interné en France. Il meurt en 1936 à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, avant d'être inhumé en Arménie. Grâce à lui, un patrimoine musical millénaire a pu être sauvé de l'oubli. Thank you. Quelques-unes des 7 pièces pour violon et piano de Komitas, ici présentées dans une transcription pour violon. Vladimir Sergueïev était accompagné par Mikhail Aïrapetian. Komitas et Aram Khatchaturian sont clairement les deux figures qui se détachent de la création musicale arménienne. Mais bien avant leur avènement, l'école de musique nationale arménienne prend son envol avec le compositeur Tigran Tchoukadjian. Tigran Tchoukadjian est né à Constantinople en 1837, soit un peu plus de 30 ans avant Komitas, et mort à Smyrne en 1898. Il s'est formé à Milan et prend très tôt conscience de la valeur du patrimoine culturel national qu'il s'efforce, avec quelques intellectuels arméniens de l'époque, de mettre en valeur et de promouvoir. Il publie ainsi des journaux arméniens, organise des sociétés musicales arméniennes, donne des concerts avec des œuvres écrites par des compositeurs arméniens et lui-même compose. Il a laissé d'innombrables pièces pour piano, des mélodies, de la musique de chambre et même des symphonies. Ses œuvres associent les techniques musicales européennes à des éléments de musique orientale. Tigran Tchoukadjian est resté dans l'histoire de la musique arménienne pour avoir composé le premier opéra arménien, Arshak II, dont le livret raconte l'histoire d'un personnage historique, le roi Arzachès d'Arménie. On a longtemps pensé que la partition de cet opéra avait disparu. Elle a heureusement été redécouverte en 1942 et représentée pour la première fois en 1945 au théâtre d'opéra arménien de Yerevan. Depuis, Arshak II continue de figurer au répertoire en Arménie. Il a même été présenté en 2001 à l'opéra de San Francisco. Malheureusement, il n'existe pas d'enregistrement de qualité de cet opéra. Dans les archives de la radio, je n'ai trouvé que des pièces pour piano de ce compositeur. Du coup, je suis allée chercher sur YouTube où j'ai trouvé cet air tiré d'une autre opérette de Tchoukadjian. Il s'agit de l'opérette Leblelig Hor Horaga. En voici un petit extrait. Anner munner, hoch zankneritz, schön hoch tschirr.
Wenn der Kokrot mich zirelen kann und tun. Ich kann wohl in die Schämpfen durch die Fahrt und tun.
Wenn der Kokrot mich zirelen kann und tun. Ich kann wohl in die Schämpfen durch die Fahrt und tun.
Vor dem Arad dar Aftakan, dan kashnamun mente tujart patvakan. Hogi denan men chendar nakagari. Alpes bittetzen vor hishen vor harsani.
Un air extrait de cette opérette de Tigran Tchoukadjian, Leblebidji Or Aga, pardonnez la prononciation. C'est un enregistrement que j'ai trouvé sur YouTube qui malheureusement ne donne aucune indication des interprètes. Tchoukadjian, c'est donc l'un des premiers artisans de l'école nationale arménienne. Il a hérité des traditions millénaires de la culture musicale de son peuple qu'il assimile à celle de la musique classique russe et occidentale. Autre précurseur de l'école arménienne, le compositeur Alexander Spendiarian, à qui l'on doit d'avoir posé les fondements d'une école de composition musicale d'importance nationale. Spendiarian est considéré comme le père de la musique classique arménienne. Il a même donné son nom au Théâtre National d'Opéra et de Ballet de l'Opéra de Yerevan. Spendiarian est né en 1871 à Kakova. Il a vécu une enfance baignée de musique grâce à sa mère qui était pianiste et qui lui inculque dès son plus jeune âge la passion du chant. Il accomplit ses études à la faculté de droit de l'université de Moscou tout en jouant du violon dans l'orchestre de l'université. Il étudie également la composition auprès de Nikolaï Rimsky-Korsakov. Sa musique acquiert dès lors une dimension plus sophistiquée, plus fine. Spendiarian n'hésite pas à se servir des thèmes populaires d'Arménie et de Crimée, thèmes qu'il connaît depuis son enfance passée dans ces deux pays. Son œuvre est assez complexe. Depuis les premières romances et pièces instrumentales écrites au début des années 1890 jusqu'à l'opéra Almast, grande œuvre d'inspiration héroïque et patriotique créée en 1928, elle est faite de recherches et de tâtonnements pour arriver à créer un style personnel d'une technique sans faille. Son œuvre la plus puissante est un poème symphonique symphonique intitulée « Les trois palmiers » d'après Lermontov. Elle se distingue par un ton poétique, une nature pittoresque et une orchestration lumineuse. Spendiarian l'a dirigée un peu partout dans le monde. Je n'ai malheureusement pas trouvé d'enregistrement de cette pièce. Aussi, je vous propose d'écouter trois pièces pour orchestre intitulées respectivement « Enzeli » et « Hijaz ».
Thank you. Thank you.